religion du monde. Geneviève Delru, Corinne Manjou.
Dans cette deuxième partie de Religion du Monde, nous allons à la rencontre des protestants évangéliques. Méconnus, souvent caricaturés, voire assimilés à une secte ou encore à une branche d'agence de renseignement américaine, les chrétiens évangéliques constituent une force montante du paysage confessionnel mondial. En l'espace de 30 ans, le nombre de leurs églises a plus que doublé en France. Au nombre d'à peine 50 000 en 1945, les croyants de cette confession sont aujourd'hui à plus de 400 000, ce qui fait d'eux la principale composante du protestantisme français devant les luthériens et les réformés. Mais qui sont-ils vraiment? Est-ce un groupe homogène? Quels sont leurs rites? À toutes ces questions et à bien d'autres, nous allons tenter de répondre avec deux reportages dans les milieux évangéliques en Île-de-France et au Cameroun, mais aussi avec Patrice de Planquette, un spécialiste de la question qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez plusieurs casquettes, vous êtes à la fois journaliste, essayiste, conférencier, blogueur. Vous êtes également auteur d'une dizaine d'ouvrages, dont le tout dernier, Les évangéliques à la conquête du monde, paru cette année aux éditions Perrin. Ce livre est une enquête qui vous a mené dans différents mouvements évangéliques à travers le monde, Patrice de Planquette. Mais qu'est-ce qui a motivé cette enquête?
Eh bien, le fait que les évangéliques sont une espèce de force montante, une espèce de nouvelle forme du christianisme qui, en effet, se répand à travers le monde à toute vitesse. 400 millions de gens dans le monde, plus de 300 000 à l'heure actuelle en France, déjà nettement plus. Une nouvelle église évangélique s'ouvre tous les 10 jours en France, entre Dunkerque et Marseille. Alors, dans un moment où l'on dit que le christianisme est fatigué, déclinant, vieillissant, démoralisé, déprimé en Europe occidentale et spécialement en France, voilà au contraire une forme de christianisme tout à fait joyeuse et conquérante, mais curieusement, elle a mauvaise réputation dans les journaux. Mes confrères ont l'habitude de dire qu'il faut s'en méfier, que c'est ceci, cela, et que bon, il y a tout un tas d'accusations qui sont formulées. Alors j'ai voulu voir ça de plus près, et je me suis donc mis littéralement en immersion dans les milieux évangéliques, en France, mais aussi à l'étranger, de la Corée du Sud au Brésil, aux États-Unis, enfin dans tout. Bon, il y a vraiment un phénomène international passionnant.
Vous expliquez dans votre livre que l'origine de l'évangélisme se situe en Europe. Pourtant, vous avez pu mesurer l'ampleur et le dynamisme des protestants évangéliques aux États-Unis. Comment ce mouvement a-t-il essaimé de l'Europe aux États-Unis, mais aussi en Asie et en Afrique?
En réalité, la sensibilité évangélique, parce que c'est une sensibilité plus qu'une doctrine, c'est une sensibilité qui commence avec pratiquement dans les premières années de la Réforme. Ce sont les gens qui trouvent que le christianisme réformé de Jean Calvin, ou encore plus de Zwingli, tous ces gens-là, est trop cérébral et eux veulent un contact, je dirais, plus émotionnel, on n'aurait pas dit ce mot-là à l'époque, mais c'est quand même un peu ça, avec le Saint-Esprit, avec Dieu, ils veulent que le feu de l'Esprit vienne les brûler ici, maintenant, tout de suite. Et ils veulent le sentir. Et on les appelle les anabaptistes. Pourquoi? Parce qu'ils rebaptisent. Ils baptisent une deuxième fois. Ils pensent que le premier baptême, donné par l'Église catholique ou par les calvinistes, n'est pas suffisant et qu'il faut être de nouveau baptisé lorsqu'on a reçu le feu de l'Esprit.
Et baptisé par immersion?
Oui, rapidement, c'est par immersion, parce que c'est dans l'Évangile, parce que voilà. Et alors, à partir de là, là, on est vraiment, on est au XVIe siècle, à partir de là, il va y avoir une espèce de floraison d'églises, de mouvements, de courants, de dissidences, de sectes, etc., dans toute l'Europe d'abord, spécialement en Angleterre, puis donc en Amérique. L'Amérique étant une colonie anglaise, ça traverse l'Atlantique, et aux États-Unis, ça va devenir quelque chose de formidable au XVIIIe siècle, un véritable feu de brousse qui se répand, qui incendie les consciences, et ça va en réalité donner sa forme à la religiosité américaine. L'Amérique devenant la première puissance mondiale, il est normal que la religiosité américaine ait commencé par diffuser sur toute la planète. Et c'est pour ça que les missions protestantes évangéliques ont été très américaines durant toute la première partie de cette histoire. Mais ensuite, ce qu'on découvre en ce moment, et là c'est encore plus passionnant, ça c'est ce que j'explique dans mon enquête, c'est que le phénomène évangélique mondial, il est de moins en moins nord-américain, il est de plus en plus sud-américain, spécialement brésilien, africain, asiatique, coréen, c'est les missionnaires coréens qui vont se faire décapiter par les talibans, c'est extraordinaire. Les Américains leur disent, vous êtes fous, n'y allez pas, ils y vont, ils se font décapiter, et en avant, alléluia. C'est tout à fait étonnant.
Alors tout de suite, nous allons à Comble-la-Ville, en région parisienne, dans une église évangélique. C'est un reportage signé Rémi Brancato.
L'agneau ressuscité, toi cela peut triompher. Bonneville, une commune tranquille de Seine-et-Marne, à une heure de Paris, en RER. Entre les pavillons et les petites entreprises, une église. Mais ici, ni vitraux, ni clochers, seul un local loué au sein d'une zone mi-commerciale, mi-industrielle. L'église Source de Vie est une église évangélique du réveil et parmi sa centaine de fidèles, la plupart vient d'Afrique. Willy Kidamou est né en République démocratique du Congo. Comme beaucoup d'évangéliques, ici, c'est un born again, c'est-à-dire qu'il a retrouvé Dieu.
C'est ici en France que moi j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur Jésus à Paris, dans les années 90. Il y avait une mission à la télé où on parlait des catholiques. Et la nuit, quand je me suis endormi, j'ai vu en songe une main revêtue d'une robe blanche. Donc c'était comme la main de Dieu qui me donnait la Bible. Et c'était une Bible avec une rayure rouge. J'ai pris la Bible pendant mon songe. Et ensuite, quand je me suis réveillé le matin, je l'ai dit à mon épouse, je vis en songe qu'on me donnait une Bible. Bon, mon épouse m'a dit, c'est sûrement parce qu'on l'a regardé l'émission la veille, c'est peut-être ça t'est resté dans la tête. Mais je suis parti travailler, je suis parti livrer Intermarché. J'ai sonné à la réception, personne ne venait. Alors je me suis dit, je vais faire le tour par la galerie commerciale et aller voir pourquoi personne ne venait. Et quand je suis passé dans la galerie commerciale, il y avait quelqu'un avec plusieurs objets qui pendaient. Il m'a posé cette question, vous ne voulez pas une Bible, monsieur? Et c'était la Bible rouge que j'ai vue dans mon songe. Et quand je suis rentré, j'ai montré la Bible à mon époux, je dis, c'est ça l'appel de Dieu.
Il est bientôt 22h ce mercredi, mais le froid n'a pas découragé les fidèles. Ils sont une vingtaine et tous prient pour l'Afrique, leur continent. Willy demande à Dieu d'aller à la rencontre du président congolais.
Au nom de Jésus-Christ, je viens te bénir et te rendre grâce au Dieu, toi qui nous as mis à cœur, au Dieu, de prier pour le continent africain. Je viens te prier pour la République démocratique du Congo, Seigneur. Seigneur, les hommes de ce monde, quand ils regardent ces pays, ils ne voient que, Seigneur, le matière première. Ils ne voient que le sida. Ils voient que de mauvaises choses. Mais Seigneur, toi, quand tu regardes le Congo, tu vois des âmes. Tu vois des âmes qui souffrent. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, de tendre ta main, Seigneur, aux autorités. Tout cela qui dirige ces pays. Je te prie pour le président Kabila, Seigneur. Je sais qu'il va dans une église, mais Seigneur, par ses actions, par ses fruits, je sais qu'il ne te connaît pas véritablement. Je te prie, Seigneur, pour que tu le touches, oh Dieu.
Albertine Chikaya vit en France depuis 20 ans. Elle est née au Congo-Brazzaville.
Je suis là parce que je suis une chrétienne fervente. J'aime le Seigneur. Et je viens les mercredis pour prier ensemble avec mes frères et sœurs. Mais ma rencontre avec Dieu était progressive. J'allais à l'église parce que mes parents m'y amenaient. Au fil du temps, j'ai vraiment fait la rencontre personnelle avec mon Jésus. Et depuis, c'est l'amour fou. Voilà. Mais j'aimerais que le peuple africain se réveille davantage. Parce que c'est vrai, on a eu un temps de réveil où l'église était vivante. Mais j'ai l'impression que maintenant, avec les guerres, avec les soucis de la vie, avec les difficultés, il y a une régression de la foi.
Et Albertine prie pour que les Africains retrouvent leur foi. Elle accomplit ainsi le cœur de la mission des Églises du Réveil, évangéliser.
Et je te prie vraiment de plier leurs genoux, mon Dieu, mon roi, qu'ils puissent regarder à toi, qu'ils puissent abandonner leurs voies obscures, Seigneur de gloire, parce qu'ils ont des voies obscures, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons qu'ils suivent une même voie, la tienne, Seigneur, la seule.
Franck Pécastin est pasteur de l'église Source de Vie. Il a choisi de consacrer une semaine à l'Afrique, car ce continent est à la source de sa foi.
Eh bien oui, j'étais étudiant, en fait, après mon bac, j'ai demandé une année sabbatique à mes parents qui m'ont accordé. Et donc avant de reprendre la Sorbonne à Paris, j'ai fait une année en Afrique. Et j'ai commencé à lire la Bible par curiosité en Afrique, dans un village qui s'appelle Nzalengusoa, qui est à l'équateur en RDC. Alors avant, j'étais athée. Pour moi, croire en Dieu, c'était une faiblesse. Et quand on n'avait pas de réponse à une question, finalement, on mettait Dieu. Et après avoir vécu en Afrique plusieurs mois, plusieurs semaines, dans un tout petit village où parfois il passait une voiture toutes les semaines, il n'y avait pas d'eau chaude, pas d'électricité, mais j'ai vu des gens tellement joyeux, heureux, j'étais tellement bousculé, et j'ai ressenti vraiment aussi de l'amour dans ces gens, parfois qui nous manquaient, même dans nos propres familles. Et on a tout, le matériel, mais on n'avait pas cette chaleur humaine. J'ai retrouvé ça, et j'ai trouvé vraiment que Dieu était vivant, parce que finalement, c'est pas un Dieu de religion. Et c'est comme ça que que j'ai commencé à faire mon chemin avec Dieu. Et aujourd'hui, vous voyez, un athée est devenu pasteur.
Vous pensez que la foi peut venir d'Afrique pour évangéliser l'Europe?
Eh bien, je crois qu'on assiste à quelque chose. Effectivement, les Européens ont amené le christianisme, l'évangile en Afrique. Mais aujourd'hui, on assiste effectivement à beaucoup de gens qui nous viennent du continent africain et qui apportent finalement une fraîcheur dans la foi, c'est-à-dire on n'est plus dans des carcans religieux. Et ce que j'ai trouvé, c'est cette façon libre à la fois de prier, à la fois de louer Dieu, d'adorer Dieu, sans complexe, qui parfois nous fait du bien, Européens, où on introvertit beaucoup de choses dans nos cultures, je dirais, traditionnelles, judéo-chrétiennes, mais plutôt aujourd'hui en France catholique.
Chaque fois que je prononce sa parole, je ne le vois pas, mais je sais qu'il y a un feu qui est en train de sortir de ma bouche. Aujourd'hui, j'en suis conscient. Hier, je n'étais pas conscient de ça. Est-ce que tu te rends compte que quand tu proclames la parole, il y a un feu qui est en train de sortir de ta bouche, normal?
Daniel est un fidèle de l'Église. L'Afrique est aussi au cœur de la foi transmise par sa famille.
Une affection particulière pour l'Afrique parce que certains oncles et tantes ont été en Haute-Volta pour développer en tant que missionnaires et infirmières des projets humanitaires et notamment témoigner leur foi dans des actes précis pour le continent africain. Ben, ce soir, effectivement, on prie pour l'Afrique. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'Africain est vraiment très réceptif à Dieu. Malgré toute la misère qu'ils vivent, ils sont heureux. Ils ont le sourire, vous voyez des petits Africains, ils courent de partout, ils sont heureux. Nous en France, on a nos enfants insatisfaits.
Est-ce que c'est justement par ces communautés de gens issus du continent africain que l'évangélisation va se réaliser en France?
On peut imaginer effectivement que ces Africains venant sur l'île de France apportent leur foi qui est, je dirais, simple. Alors que nous, nous avons matériellement tout. On apprend même de leur foi, tellement elle est immense vis-à-vis des difficultés qu'ils ont vécues.
Patrice de Planquette, prière plus libre, ambiance chaleureuse, ce sont des mots qui reviennent dans ce reportage. C'est un peu ce qui caractérise les églises évangéliques.
Oui, l'ambiance chaleureuse, c'est une chose qui est très importante. J'ai discuté avec beaucoup de jeunes, les 15-25 ans, convertis de l'athéisme dans le protestantisme évangélique, pentecôtiste, et beaucoup m'ont dit qu'ils avaient tenté une expérience dans une paroisse catholique, mais qu'ils avaient trouvé ça froid. Alors que le climat d'une assemblée évangélique est extrêmement chaleureux, extrêmement affectueux. On arrive, on s'assied, le barbu qui est à votre gauche vous embrasse sur les deux joues en vous disant « Je te salue, mon futur frère du ciel ». Ça, c'est un truc que vous n'avez pas à la Madeleine. Hein. Bon, je caricature un peu. Donc, la chaleur humaine, ça c'est vrai, c'est un détail très important. C'est pas un détail, d'ailleurs, c'est une caractéristique. Et puis, la prière directe, c'est-à-dire le fait que les gens se lèvent. Il y a des assemblées pentecôtistes où le pasteur ne fait pratiquement rien. On a l'impression d'un chef d'orchestre. Et on a l'impression que l'orchestre est dans la salle et que ce sont les gens qui se lèvent et qui jouent leur partition personnelle, qui parlent directement à Dieu. Et ça, c'est également une chose qu'on trouve dans des assemblées de prière catholiques, mais naturellement pas dans la liturgie de la messe catholique, parce que l'Eucharistie catholique, c'est autre chose. Le trésor des catholiques, c'est l'Eucharistie, et l'Eucharistie, c'est autre chose que cette parole libre. La parole libre, ce n'est pas mieux ou plus mal, c'est autre chose, c'est une autre façon de prier. Et il ne faut pas comparer, parce que ce sont deux choses différentes. Mais en tout cas, cette façon directe de s'adresser à Dieu, c'est très important, et pour un catholique, c'est impressionnant, et c'est tentant, parce qu'on se dit que c'est ce qui manque dans la démarche catholique classique, c'est de s'impliquer publiquement et personnellement vis-à-vis de Dieu. Et de se lever, de parler à Dieu, Dieu étant une personne vivante et non pas une idée.
Alors, qu'est-ce qui différencie fondamentalement les catholiques et même les autres courants du protestantisme des évangéliques, à part cette émotion librement exprimée?
Une chose qui est fondamentale et qui est l'Eucharistie. Vous me direz, les protestants ont l'Eucharistie. Oui, mais ce n'est pas dans le même sens. Ça, c'est une discussion théologique infinie. Bon, mais l'Eucharistie catholique, ce que les catholiques appellent la présence réelle, c'est au centre de la foi catholique et ça explique toute l'organisation de l'Église catholique autour, c'est-à-dire les prêtres, les évêques, donc l'organisation hiérarchique de l'Église catholique. Tout ça est cohérent. Et ça, c'est la grande différence avec les assemblées protestantes, particulièrement évangéliques, qui sont en fait des assemblées de prière de volontaires. Celui qui ne trouve plus sa satisfaction, son bien spirituel dans une assemblée, la quitte et va dans l'assemblée d'à côté, ou bien il fonde la sienne. C'est la libre concurrence dérégulée totale, libre entreprise religieuse, concurrence généralisée, ce qui est totalement autre chose que l'univers catholique. Et ce qui d'ailleurs est un avantage comparatif pour les évangéliques protestants, du moins ça l'a été durant toute la période ultralibérale du modèle économique global planétaire actuel, c'est parce que cette façon de faire correspondait assez à la démarche économique de la planète. Alors que l'Église catholique, elle, est en décalage par rapport à ça. Avec son organisation hiérarchique, c'est un autre monde.
Mes amis, je vous assure, j'ai parcouru l'univers, je cherchais un refuge, car je n'avais pas la paix. Des marabouts en féticheur, de religion en ordre mystique, mais je n'ai rien trouvé. Bredouille. Puis un merveilleux jour, j'ai rencontré Jésus-Christ, il a changé ma vie. J'ai trouvé l'amour, depuis que je l'ai connu, je peux affirmer, il n'y a vraiment personne comme lui.
Les églises évangéliques sont de plus en plus nombreuses en Afrique, dans des pays parmi les plus pauvres de la planète. Il est vrai que l'évangile de la prospérité et les guérisons miraculeuses prêchées dans nombre de ces assemblées trouvent un écho favorable auprès des populations. À Yaoundé, au Cameroun, Geneviève, vous avez rencontré les responsables de la MEC, la mission de l'église évangélique camerounaise.
Oui, effectivement, c'était en mars dernier. J'étais à Yaoundé pour couvrir la visite du pape Benoît XVI et j'en ai profité donc pour aller à la rencontre de protestants évangéliques. Alors, pour ceux qui connaissent bien Yaoundé, ils visualiseront tout de suite la MEC. Entendez la mission de l'église évangélique camerounaise, un temple situé au sommet d'une colline escarpée dans le quartier de Colbison. Alors là, juste avant le culte, le pasteur Daniel Youn, fondateur de la MEC, m'a reçu dans son bureau. Il m'a raconté son histoire. Le pasteur Daniel Youn est coréen, sud-coréen. Il est arrivé il y a 22 ans au Cameroun. Par bateau. Aujourd'hui, la mission compte 20 pasteurs, 70 églises, une faculté de théologie évangélique et bientôt une faculté de médecine. Alors, de notre entretien, j'ai d'abord retenu l'élan missionnaire.
Et je suis venu ici en 1987 avec un bateau missionnaire dans lequel il y a environ 350 missionnaires de 45 pays différents. J'étais dans le bateau pendant 12 ans. Et en visitant plusieurs pays européens et africains, et ici Cameroun, le port de Douala était le dernier port pour mon mandat. Et je devais y descendre pour entrer en Corée du Sud. Mais Dieu m'a appelé ici et de travailler dans ce pays du Cameroun. C'est pour ça depuis 1987 et je travaille ici dans ce pays.
Et quand vous dites j'étais appelé, c'est-à-dire quand vous étiez sur ce bateau à Douala, vous vous êtes dit, c'est là que je dois planter ma tente?
Oui, oui, j'étais dans le bateau depuis 2 ans. Je ne voulais pas venir travailler comme missionnaire. Je suis monté dans le bateau juste après le mariage pour me promener un peu dans le monde comme un peu tourisme. Mais je ne voulais pas venir ici, rester. Je n'ai jamais imaginé de travailler comme missionnaire. Mais Dieu m'a appelé par une invitation spéciale et pas plusieurs visions. Et contre ma volonté, j'ai décidé de venir travailler ici.
Vous parlez de vision, c'est ça?
Oui, oui, oui. Par exemple, le bateau nous a demandé de quitter le bateau parce que ma femme était enceinte avant de venir en Afrique. Une femme enceinte était très dangereuse parce qu'il faut des vaccins, des paludisme, plusieurs choses. Et ma femme n'était pas en bonne santé. Donc l'idée de bateau nous a demandé de descendre de bateau, rentrer en Corée. Et ma femme, elle a eu une vision parce qu'on voulait voir l'Afrique. Et c'est pour ça qu'on est allé voir le leader pour dire que nous voulons continuer à aller en Afrique. Et malgré cela, je ne voulais pas devenir missionnaire. Mais le Seigneur m'a parlé continuellement dans mon cœur, tu dois venir ici. Et j'ai refusé, et je peux rentrer en Corée, je peux envoyer les missionnaires ici en Afrique, je peux les soutenir. Mais dans mon cœur, il y a une voix qu'on ne peut pas entendre, on peut sentir. Pourquoi c'est pas toi qui viens ici? Je suis faible, je ne parle pas les langues, je ne peux pas supporter ce climat, ces coutumes, je ne suis pas digne d'être missionnaire, je veux envoyer les autres. Mais là où tu ne veux pas venir, tu ne peux pas envoyer l'autre. Je n'avais pas la paix, je ne peux pas dormir, et je n'avais pas le goût. Et j'étais donc obligé de prier en disant que Seigneur, je ne veux pas venir ici. Appelle-moi d'une manière spéciale et je peux l'accepter comme ta volonté. Et arrivé à Douala, un couple coréen est venu me voir en disant que, oh, tu dois venir ici et au Cameroun comme missionnaire. Et ils ont insisté cela et j'ai dû donc accepter et les supplications comme la réponse de la prière, quoique je n'étais pas très prêt.
Alors, quand vous êtes arrivé, il n'y avait rien. Comment ça se passait?
Oui, j'étais donc logé dans un petit hôtel, parce que je ne connaissais pas le milieu. Et après, j'ai loué une petite maison, parce que je n'avais pas suffisamment de moyens. Pour commencer, le ministère était très, très dur, parce que c'était à Douala. Et il fait très chaud, et ma maison n'était pas climatisée. Et les souris pendant la nuit a mordu le doigt de ma femme dans le sommeil et le sang coulait.
Et votre femme a supporté tout ça?
Ah, vraiment c'était difficile parce qu'on n'avait pas même pendant 3 mois de quoi manger. Oui, et parce que le soutien ne venait pas du pays à cause de quelques problèmes. Et on était vraiment tellement difficile.
Vous avez débarqué il y a 22 ans au port de Douala sans rien? Absolument rien. Et 22 ans après, en haut de cette colline, il faut gravir des marches d'ailleurs, longtemps, il y a cette magnifique mission. Comment avez-vous réussi?
Et dans ce pays, dans tous les 10 provinces, nous avons maintenant 70 églises, 55 églises aussi en création. 2011, c'est le 20e anniversaire de notre mission officielle. Et nous avons aussi notre collège qui s'ouvre en cette année de septembre. Et nous avons aussi obtenu l'autorisation pour ouvrir la faculté de médecine que nous sommes en train de préparer. En effet, Dieu nous a bénis. Même ce temple que vous voyez, et c'est une des plus grands temples ici au Cameroun, parmi les églises protestantes. Et c'est la main de Dieu qui est avec nous.
Alors, Patrice de Planquette, une réaction à l'histoire de ce missionnaire sud-coréen au Cameroun?
Elle est exemplaire, elle est tout à fait typique. L'élan missionnaire, le dynamisme missionnaire des sud-coréens est quelque chose d'absolument renversant. Je disais tout à l'heure qu'il en débarque en Afghanistan alors que les troupes de l'OTAN leur disent « vous êtes cinglés » et ils y vont quand même, ils se font enlever, ils se font tuer par les talibans. En Irak, il y en a un qui s'est fait égorger dès la 2e année de l'occupation américaine. C'était un Coréen et il a été enlevé par les gens de Al-Qaïda et était décapité, filmé, c'était un truc épouvantable. Mais il est tout à fait normal de voir que les Coréens soient aussi vigoureusement chrétiens quand on pense que la Corée est le seul pays d'Asie qui ait importé le christianisme sans que les missionnaires viennent. Car ce sont des jeunes nobles coréens au XVIIIe siècle qui, après des contacts avec les jésuites français et espagnols à Pékin, ont décidé d'importer le christianisme en Corée, et ils l'ont importé d'eux-mêmes avec, il n'y avait pas de prêtres, il n'y avait pas de missionnaires, ils ont essayé, ils ont expérimenté le truc entre eux. Alors, persécution, machin, etc. Et c'est à la fin du 19e siècle seulement que le premier évêque missionnaire, français d'ailleurs, est arrivé en Corée. Le protestantisme, lui, a fait un décollage fulgurant après la guerre de Corée, donc dans les années 50 et 60. Pourquoi? Parce que la guerre de Corée avait littéralement ravagé le pays, c'était un pays en ruine, dans un état de misère épouvantable. Il est bien évident que, pour les Coréens, le fait que le protestantisme soit la religion des Américains qui les avaient sauvés du communisme, ça a énormément joué. Et ils se sont emparés de ce protestantisme à l'américaine, mais ils l'ont coréanisé extrêmement vite. Ils en ont fait quelque chose de profondément coréen, et dans lequel on peut même voir, d'une certaine façon, en particulier dans cet élan missionnaire, une sorte de revanche d'un pays qui estimait avoir été mis de côté par l'histoire et n'avoir pas de dimension universelle, alors qu'il méritait d'avoir une dimension universelle. Et à travers cette mission évangélique, porter le feu de l'évangile protestant à travers le monde entier, eh bien, le pays tout entier se disait, eh bien maintenant, nous avons une mission planétaire, et c'est la première fois dans l'histoire que la Corée, qui a été opprimée par les Chinois, opprimée par les Japonais, c'était un pays opprimé. Eh bien voilà, la Corée qui devient un pays d'avant-garde, un pays porte-flambeau, porte-croix. Et ça, bon, ça n'est évidemment pas l'essentiel, mais ça joue dans la psychologie collective. Et c'est une des explications de cette bizarrerie de voir un Sud-Coréen venir évangéliser Yaoundé. Parce que le rôle des religions traditionnelles dans les églises évangéliques est très grand. En Afrique, on le voit particulièrement bien. On le voit aussi dans les Caraïbes, on le voit en Haïti, etc. Et ça, ça vient du fait que l'évangélisme, le protestantisme évangélique est extrêmement souple. Il a un côté caméléon. Comme il est très peu structuré, là où on le pose, il prend les couleurs du pays où on le met. Donc, il s'inculture avec une rapidité absolument extraordinaire. Donc, il absorbe des éléments des cultures traditionnelles. D'où le fait que l'évangélisme coréen soit finalement très coréen. De même que l'évangélisme africain est très africain. Alors là où c'est intéressant, c'est de voir ce que donne un Coréen en Afrique. Parce qu'il apporte sa mentalité, les Africains ont la leur, et c'est intéressant de voir ce que ça va donner au final.
Merci Patrice de Planquette. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Les évangéliques à la conquête du monde, paru en février 2009 aux éditions Perrin. C'est la fin de cette émission, réalisée par Marie-Hélène Rollin, à la technique Nicolas Doreau. Au revoir et à la semaine prochaine.